Passionnés, étudiants, professeurs, journalistes ou des invités de tout horizon, Nicolas Boissineau les reçoit pour une immersion au cœur de l'histoire sur Prune 92 FM. Moment d'histoire. L'émission qui voyage dans le Nantes d'un autre temps.
Non loin de l'arrêt tram Jamais sur la ligne 1, un vieux vélodrome semble faire partie du passé. Sa piste ovale de 500 mètres fut construite en 1924, puis dans les années 30, elle devient la propriété de la ville de Nantes, qui la met à disposition de la pédale champenoisienne encore en activité. Cette infrastructure est un monument du sport français. Elle a accueilli 9 arrivées d'étapes du Tour de France. Des milliers de spectateurs sont venus applaudir les grands noms du cyclisme. Jean Robic, Raymond Poulidor, Eddy Merckx ou encore Bernard Hinault. Le vélodrome a été nommé Petit Breton, en mémoire du champion cycliste Lucien Mazan. Bonjour et bienvenue dans Moment d'Histoire, l'émission consacrée à l'histoire locale sur Prune 92 FM. Comme vous avez pu le constater, aujourd'hui on va parler cyclisme et de Petit Breton, un champion de cyclisme iconique du début du XXe siècle dont la vie fut parsemée de prouesses, d'aventures, d'écritures et malheureusement de la Première Guerre mondiale. Et pour nous en parler, nous recevons David Guenel, auteur de la biographie Petit Breton, gentleman cycliste. Et tout de suite, jingle! Bonjour David Guenel, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Bonjour à toi Nicolas.
Et vous êtes l'auteur de la biographie Petit Breton, gentleman cycliste, aux éditions Publish Room Factory. Avant de revenir sur cet incroyable personnage, on va vous présenter à nos auditeurs. Donc les passionnés de cyclisme et de son histoire vous connaissent déjà à travers vos chroniques dans Vélo Club Net. Vous avez aussi une communauté de 24 000 abonnés sur Twitter où vous partagez des archives de vélo. Quel a été votre parcours pour en arriver là?
C'est un parcours un peu tortueux, mais disons que j'ai toujours été fan de cyclisme de par l'histoire familiale. Un grand-père, un père pratiquant, coureur à un bon niveau amateur. J'ai un peu baigné dedans, hein. J'ai suivi les courses de mon père notamment. Il y avait une belle petite bibliothèque de cyclisme à la maison. Donc j'avoue que je piochais dedans assez souvent, dans les livres illustrés notamment, parce que j'ai toujours trouvé que le cyclisme avait vraiment une puissance photographique assez impressionnante. Et du coup, dès que j'étais petit, vers 7-8 ans, ça a commencé à m'attirer. Et puis, je me suis jamais désintéressé du sujet. Après, le côté plus historique et recherche que j'ai pu faire, c'est venu assez progressivement. Je participais, moi, à un site internet, donc plutôt pour des trucs d'actu. Et puis parallèlement à ça, j'ai commencé à écrire des articles sur des choses un peu plus pointues au niveau historique, sur des personnages un peu oubliés qui m'intéressaient. Et puis ils ont été publiés progressivement sur le site véloclub.net, comme vous disiez. Et puis parallèlement à ça, j'avais ouvert un compte Twitter un petit peu pour suivre plutôt qu'autre chose l'actu cyclisme. Mais progressivement, j'ai eu envie de partager les photos que je trouvais des fois qui me paraissaient sympas. Et puis ça plaît pas mal, en fait. C'est vrai qu'il n'y a pas tellement de comptes sur Twitter qui parlent de l'histoire du cyclisme. Le mien plaît bien. Et puis j'essaie de raconter aussi des petites histoires, hein. C'est pas juste mettre des photos, mais essayer de retrouver des articles de presse. Du 19e, du 20e, qui peuvent être soit amusants, soit éloquents, soit voilà, qui en tout cas tout le temps relaté à l'histoire du cyclisme.
Et alors que vous auriez pu choisir Garin, Faber ou Christophe, vous décidez d'écrire un roman sur Lucien Mazan, plus connu sous le nom de Petit Breton. Pourquoi l'avoir choisi?
Alors, c'était d'abord plutôt justement dans le cadre d'un article que je voulais écrire pour mon site, enfin le site où je collabore. Donc, il n'y avait vraiment à ce moment-là pas de volonté ni d'ambition de faire autre chose qu'un article long format. Moi, je me suis intéressé à lui d'abord parce que c'est un des grands champions de l'avant-première guerre mondiale. En plus, il se trouve qu'il est né à Plessé. Moi, je suis de La Chapelle-sur-Erre, donc pas très très loin. Donc voilà, on n'a pas beaucoup de très très grands champions en Loire-Atlantique. Il y a eu Cyril Guimard, il y a eu Barbotin, voilà, il y en a eu deux trois autres, mais grosso modo, il n'y en a pas eu beaucoup. Et évidemment, Lucien Petit Breton est le plus grand champion on va dire, de l'agglomération nantaise au sens large. Voilà, moi c'est aussi ça qui m'a intéressé. Et puis je me suis un peu du coup penché sur sa vie, sur son parcours, et je me suis rendu compte progressivement qu'il y avait de quoi faire beaucoup plus qu'un simple article. J'ai donc regardé un petit peu ce qui s'était écrit sur lui. En l'occurrence, il y a eu une seule biographie hein, qui est sortie, qui était écrite par Roger Bastide avec le fils de Petit Breton à l'époque, qui est sortie en 85. Je me la suis procurée, je l'ai lue, je l'ai bien aimée, mais en fait, elle abordait ou peu, pas mal de sujets que moi je trouvais intéressants. Et puis la façon d'écrire, moi je voyais quelque chose d'assez différent. Donc je me suis mis un petit peu comme ça à l'écriture du bouquin, mais sans savoir encore si vraiment j'allais aller au bout de mon projet.
Vous avez même rencontré sa descendance?
Alors ben, du coup, ouais, dès que j'ai su que ben, j'allais essayer d'écrire un livre, je me suis un petit peu renseigné pour savoir s'il avait des descendants. Et il s'avère que bah lui, donc Lucien, a eu trois enfants. L'une est morte quasi centenaire là, au début du 21e siècle, mais sans s'être mariée et sans enfant. Une autre est morte dans un accident d'avion avec son bébé et son mari alors qu'elle avait une vingtaine d'années. Et finalement, il n'y a que son fils, donc Yves Petit-Breton, qui a eu des enfants, et voilà, donc il a eu trois enfants, donc les petits-enfants de Lucien, et les trois sont encore vivants. L'un habite à Pornichet, l'autre à Pornic et l'autre à Paris. Et du coup, ben, effectivement, je les ai rencontrés tous les trois, j'ai rencontré aussi deux, trois arrière-petits-enfants, et tous étaient assez intéressés, voire enthousiasmes, selon à qui je parlais, mais en tout cas, voilà, ça laissait personne indifférent dans la famille. Donc j'ai eu leurs encouragements et puis ils m'ont fourni pas mal de documentation et pas mal surtout de photos. Ils m'ont donné quelques centaines de photos que Lucien avait prises lui-même parce qu'il était passionné de photos. Je pense qu'on y reviendra peut-être, mais en tout cas il a laissé un fond iconographique vraiment intéressant qui m'a permis de me plonger dans son histoire.
Thank you.
C'était Ibrahim Malouf, True Story. Vous êtes de retour dans Moments d'Histoire en compagnie de David Guénel, auteur de Petit Breton, Gentleman Cycliste. Donc Lucien naît le 18 octobre 1882 à Plessin en Loire-Atlantique. Son père, Clément Mazan, exerce la profession d'horloger bijoutier. Comment se déroule la première tranche de vie de Lucien à Plessin?
Voilà, une petite bourgade à l'époque avec quand même quelques commerces, quelques notables. Et son père fait partie un peu de ces notables. Il est horloger donc dans le bourg, il a sa petite clientèle. Sa mère, elle, ne travaille pas comme c'était souvent la règle à l'époque. Il a une enfance, somme toute, assez banale, plutôt privilégiée quand même. Et puis ça, c'est jusqu'à ses 6 ans. Puisque ses parents décident d'émigrer en Argentine quand il a 6 ans. Il se retrouve, lui, avec ses deux frères, à être hébergé à Fégréac chez un oncle et une tante, pendant que ses parents et ses deux petites sœurs, elles, partent pour l'Argentine et pour Buenos Aires.
Toute sa tendre enfance, il a été passionné par le cyclisme, et à l'âge de 16 ans, il gagne une bicyclette à la loterie. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à s'entraîner intensivement, mais dans le plus grand secret, puisque son père estime que les cyclistes sont de vulgaires saltimbanques. Donc comment a-t-il débuté le cyclisme?
Alors oui, effectivement, 2 ans après ses parents, il les rejoint en Argentine avec ses deux frères. Il commence à travailler assez jeune, parce qu'il y a eu une crise économique là-bas, donc à partir de ses 10-11 ans, il commence à travailler. C'est vrai qu'il s'intéresse au cyclisme assez jeune, apparemment, hein. Quand il a la chance d'avoir sa bicyclette, il s'y met de manière assez acharnée. Alors, d'abord, c'est plutôt comme un simple gamin, hein, comme on peut faire quand on a son premier vélo, on pédale, on va un peu n'importe où, etc. Mais lui, il a rapidement envie de participer à des courses. Et à 16 ans, en fait, il en parle un petit peu à son père de cette envie-là. Mais comme vous dites, son père, lui, pour lui, c'était hors de question. Parce que, alors, on ne faisait pas de vélo chez les Mazans, et encore moins de courses cyclistes. Donc, il s'engage dans une petite course organisée par l'ambassade de France à Buenos Aires le 14 juillet 1898. Il fait un résultat. Bon, après, ils étaient que trois au départ. Il fait deuxième, et du coup, on lui demande son nom à l'arrivée pour la publication des résultats dans le journal du lendemain. Et c'est là qu'il se rend compte qu'il a peut-être pris un risque et que son père pourrait bien tomber là-dessus. Et voilà, il a que 16 ans, ça reste un enfant. Donc, il s'invente le pseudonyme de Breton dans un premier temps, pour justement que son père ne sache pas qu'il a commencé à faire des courses malgré son refus.
Mais d'ailleurs, pour cet épisode-là, j'ai une petite anecdote. Je vais citer Lucien Petit Breton en parlant de son père. Il ne ratait plus une seule réunion de vélodrome. Il se fâchait avec les spectateurs qui doutaient de mes qualités en proclamant bien haut que je m'appelais pas Breton, mais bien Mazan, et qu'il était mon père.
Oui, ça, alors c'est pas immédiatement à ce moment-là, mais pas très longtemps après, effectivement, son père découvre qu'il est coureur, parce qu'il commence à avoir des résultats, en fait, des bons résultats. Du coup, dans l'horlogerie qu'il a ouverte à Buenos Aires, les clients commencent à le féliciter, des résultats de son fils, etc. Donc finalement, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de honte à avoir un fils coureur, et que même au contraire, c'est plutôt flatteur. Donc à partir de ce moment-là, il va le voir de manière assidue dans les courses des deux vélodromes de Buenos Aires, et puis il devient vraiment un supporter de son petit garçon, quoi.
Et en 1899, il devient champion d'Argentine, sur piste et sur route. Et bon, à la suite de ça, il fait pas mal de bons résultats. Et en 1902, il revient en France, à Paris, avec pour objectif de devenir cycliste professionnel. Comment se passe son retour en métropole?
Alors, c'est vrai qu'en l'espace de quelques années, il est devenu le meilleur coureur en Argentine. Quand il a seulement 18-19 ans, il est champion d'Argentine sur route, sur piste, sur plusieurs disciplines. Et puis lui, son rêve depuis toujours, de toute façon, c'est d'être vraiment un grand champion, et d'être le meilleur dans son sport. Donc, de toute façon, en Argentine, il n'a aucun avenir. Donc, il fait des économies et au bout de 1 an ou 2, comme ça, à faire des économies, il parvient à économiser suffisamment pour revenir en France, où pour le coup, il passe, voilà, de la star un petit peu du cyclisme du pays à un anonyme complet. Quand il arrive à Paris, on a vaguement entendu parler de lui parce que il y avait pas mal d'Européens de second plan qui couraient dans l'hémisphère sud pendant l'hiver pour, voilà, pour avoir quelques cachets. Mais grosso modo, on ne prête pas trop attention à lui parce que le niveau étant faible là-bas, le fait qu'il soit champion d'Argentine, ça ne voulait pas dire grand-chose. Donc il a tout approuvé, il le sait. Et donc les débuts sont un petit peu difficiles en plus parce qu'il n'a pas des résultats tout de suite. Donc il se démoralise un petit peu, mais il est du genre opiniâtre, hein, donc il se démoralise, mais il se décourage pas et il va insister. Il va participer à vraiment énormément de courses sur tout type de discipline, parce que sur piste à l'époque, il y avait vraiment beaucoup de choix possibles. Ça pouvait être des sprints, ça pouvait être des courses derrière moto, des courses de prime, des courses par élimination, des courses scratch. Voilà, donc lui, il participe à tout ça d'abord pour essayer de gagner un peu d'argent et puis pour se faire un nom. Et puis il y parvient progressivement, ouais.
Et donc, il commence son palmarès fulgurant avec le Bol d'Or en 1904.
Voilà, sa première victoire vraiment importante, c'est le Bol d'Or, c'est-à-dire une course d'endurance de 24 heures, où il y a sur une dizaine de participants, sur un vélodrome, le vainqueur est celui qui a parcouru la plus grande distance. Donc c'est ce qui va vraiment le lancer. L'année d'après, donc il commence vraiment sa carrière sur route. Donc il participe au Tour de France, voilà, où il se montre un petit peu en 1905. Et puis ce qui va vraiment lancer sa carrière et participer à sa gloire, c'est cette même année 1905, il bat le record de l'heure. Donc un record qui était déjà très prestigieux à l'époque et qui tenait depuis 7 ans et qui était jugé un petit peu imbattable, voire truqué. Voilà, c'était un dénommé William Hilton qui l'avait. Américain, personne n'avait trop vu en France comment ça s'était fait. Donc le fait qu'il le batte, ça le place vraiment d'emblée parmi les grands champions de France et d'Europe. Et voilà, c'est le début vraiment de sa première partie de carrière où il enchaîne les succès.
Et puis après, en 1907, on peut dire que c'est la consécration. D'abord avec un Milan-San Remo.
Voilà, effectivement, il gagne le premier Milan-San Remo, alors qu'il n'y avait pas le retentissement qu'il a aujourd'hui, parce que c'était la première édition, on était loin de parler de monument. Mais quand même, gagner en Italie face aux champions italiens, c'était quand même une gageure et les organisateurs avaient quand même réuni un beau plateau, donc c'était une victoire assez prestigieuse. Et puis effectivement, il gagne le Tour de France. En 1906, il avait déjà gagné le Tour de France dans la catégorie des poinçonnés, c'est-à-dire des coureurs qui ne changeaient pas du tout de vélo de bout en bout de l'épreuve.
Ok.
Voilà, il avait fini quatrième et premier cette catégorie-là, qui était déjà voilà, un superbe exploit et qui le plaçait vraiment bien sur l'échiquier professionnel. Et en 1907, alors qu'il est encore dans cette catégorie poinçonnée, et qu'on considère donc gagner le Tour de France dans cette catégorie-là n'est pas possible parce qu'on perd trop de temps à réparer son vélo, tandis que les autres peuvent en changer à chaque point de contrôle quand ils ont un souci et autres. Il réussit l'exploit de gagner le tour en étant poinçonné. Voilà, donc là, vraiment, effectivement, c'est la gloire, la gloire, la gloire. Et il enchaîne sur sa plus belle saison en 1908, où il remporte le Tour de Belgique, qui était à l'époque la deuxième épreuve la plus importante au niveau par étape. Il gagne Paris-Bruxelles. Et il gagne son deuxième Tour de France, donc le premier coureur à gagner deux Tours de France. Et puis il le gagne de manière assez souveraine, en gagnant pas mal d'étapes, en faisant un petit peu ce qu'il veut. Donc là, il est au sommet, il a 25 ans et il est au sommet de sa gloire et de son sport.
Et donc, ben, votre ouvrage, c'est l'occasion de faire une belle immersion dans l'univers du cyclisme du début du 20e siècle. Et ben, vous décrivez une atmosphère assez presque inhumaine de ces épreuves. Ces hommes étaient-ils des gladiateurs des temps modernes?
Oui, on peut le dire comme ça, effectivement. C'est vrai que j'ai essayé, moi, de proposer une immersion dans ce début de XXe siècle. Alors, pas seulement cycliste, mais voilà, en France, et puis de faire comprendre aussi ce qu'était ce sport à cette époque, qui n'a pas grand-chose à voir avec le sport cycliste qu'on connaît maintenant. Voilà, et en fait, c'était vraiment les débuts, les prémices de l'entraînement, de l'alimentation, les courses, c'était encore vraiment des aventures. Hein. On se perdait pas mal. Les départs, c'était parfois à minuit, 2 h, 4 h du mat. Souvent, on restait en selle pendant entre 12 et 18 heures. Le ravitaillement devait souvent être trouvé un petit peu comme on pouvait, hein, chez l'habitant ou autre. Et pareil pour pas mal de coureurs, les moins fortunés, ceux qui ne faisaient pas partie d'une équipe. Fallait encore une fois, après l'arrivée, trouver un hôtel, laver son maillot, etc., et repartir. Alors normalement, il y avait un jour de repos, mais pour les derniers, souvent, ils arrivaient au matin, donc quelques heures seulement, une douzaine d'heures, une quinzaine d'heures avant le départ de l'étape suivante. Et puis, on parle d'étapes qui ne faisaient pas 180 km, hein. C'était les plus courtes, souvent plus de 300 km, les plus longues, près de 500. Sur des routes qui n'en avaient que le nom. C'était plutôt des chemins, la caillasse plus ou moins fine, voilà, avec pas mal de boue dès qu'il pleuvait un petit peu, des animaux sur la route, des vaches, des troupeaux qu'il fallait dépasser. Donc, en fait, c'est vrai, quand on lit les résumés de ces courses-là dans les journaux contemporains, on a du mal à se représenter que c'est le même sport que ce qu'on regarde en juillet à la télé, quoi. C'est un monde vraiment différent. Et puis, c'était des gars qui étaient vraiment courageux, effectivement. Bah, le vélo, on le sait, c'est dur. Mais eux, ils étaient sur des vélos sans dérailleur. Donc, voilà, des vélos qui pesaient 12, 13 kilos, dont les selles étaient très, très peu confortables. D'ailleurs, la position même n'était pas toujours très confortable parce que on était encore dans une phase de progrès au niveau forme de guidon et forme du cadre. Tout cet ensemble de choses fait que j'ai beaucoup d'admiration et je suis assez fasciné par ces gars-là.
Oui, on peut dire que c'était de vrais athlètes. Et tout de suite, une pause musicale.
Y a que toi qui sais. trop facile dans la vie. Il y a des jours où il pleut et où il fait beau. Mon amour, on va tous mourir demain. Il y aura du soleil et de l'orage, c'est sauvage. Il y aura du vent, ce sera trop facile. Il y aura du soleil et de l'orage. Y'aura du soleil et de l'orage, c'est sauvage. Y'aura du vent, ce sera trop facile. Y'aura du soleil et de l'orage, c'est sauvage. Y'aura du vent, ce sera trop facile. Yes. Pour de vrai.
C'était La vie color, Dichon. Vous êtes de retour dans Moments d'Histoire, en compagnie de David Guénel, auteur de Petit Breton, gentleman cycliste.
Maintenant, on va revenir sur Lucien Mazan. Donc, après ses deux tours, il ralentit un peu sur la pédale. Son équipementier Peugeot lui propose une enseigne. À cette époque-là, il épouse Marie-Madeleine et s'installe comme un commerçant, tout en étant un homme très éclairé, amateur de belles lettres, photographe, comme vous l'avez dit, mécanicien, et lors de sa première retraite, il devient même écrivain.
Oui, alors, c'est vrai qu'effectivement, au soir de son tour de France Victorieux en 1908, il annonce sur la piste du Parc des Princes qu'il prend sa retraite. Donc, ça surprend un petit peu hein, pour un garçon qui a que 25 ans, comme je disais, et qui est au fait de sa gloire et de sa forme. Mais effectivement, c'est un petit peu sur l'insistance de son beau-père et de sa future femme avec laquelle il va se marier au courant de l'automne. Et il prend un magasin de cycles à Périgueux, enfin, qu'il monte de toutes pièces avec la marque Peugeot, où il vend du matériel, donc vélo, voiturette, et puis où il a un atelier de réparation. Parallèlement à ça, donc, il écrit un manuel hein, qui fera référence pendant pas mal d'années sur... l'entraînement et l'alimentation justement du coureur cycliste sur route. C'est un des premiers qui a vraiment réfléchi sur le sujet. Il a expérimenté par lui-même quel type d'alimentation convenait, quel type d'alimentation était beaucoup moins recommandable, combien de kilomètres faire par sortie avant les courses, en hiver, etc. Il a vraiment réfléchi à tout ça, et il faut dire qu'au début de sa carrière, il courait un peu n'importe comment, il s'entraînait n'importe comment, donc il s'est rendu compte qu'il fallait travailler là-dessus, et il l'a si bien fait que du coup, il était légitime pour sortir ce petit bouquin, préfacé par Henri Desgranges, le directeur du Tour de France, et qui s'est vraiment bien vendu du coup entre fin 1908 et puis la guerre. Et puis à Périgueux, il a aussi participé à la création du club de vélo de la ville pendant qu'il était retiré là-bas, même si au final sa retraite aura été de courte durée puisque voilà, en fait il est encore jeune, il a pas vraiment arrêté parce qu'il avait envie, mais plutôt sur la pression familiale, donc finalement il décroche le vélo et il reparticipe à sa première course dès le Tour d'Italie 1909, le premier Tour d'Italie. Il est au départ en mois d'avril 1900.
Mais ses résultats sont moins probants que dans le passé.
Alors, ouais, c'est vrai, il a du mal à s'y remettre. Ben, au Tour d'Italie, bon, il abandonne à la première étape suite à une chute. Après, il ne participe pas au Tour de France parce qu'il n'est pas encore tellement en forme. Et puis, ben, dans les années qui suivent, 1910, 1911, 1912, il obtient quelques beaux résultats. Il est souvent pas loin de la victoire, mais il joue un peu de malchance. Et puis voilà, il est devenu papa. Il a quand même ce magasin dont je parle, dont il faut s'occuper, même à distance, même avec son frère Paul qui le gère pour lui. C'est pas mal de tracas. Voilà, Il a une vie un peu mondaine aussi quand il est à Paris, donc je pense que l'entraînement est quand même moins assidu. Il prend moins de risques aussi en course. Donc tout ça fait que il obtient quelques victoires, mais c'est plus le petit Breton d'avant-guerre, quoi. Sa plus belle victoire, ça reste une étape dans le Tour d'Italie. Mais voilà, il n'aura pas beaucoup gagné finalement dans la deuxième partie de sa carrière, même si il la poursuit jusqu'au déclenchement de la guerre.
Il faut dire aussi qu'il a pas mal de hobbies à côté. Il s'essaye à l'aviation et il voyage régulièrement.
Oui. Alors effectivement, il a eu son brevet de pilote d'aviation de manière assez rapide, hein, en 1909. Donc, il fait partie des premiers aviateurs en France, hein, tout simplement. Il achète même un avion avec son frère Paul, qui l'a initié à ça. Donc, ça lui prend du temps, effectivement. Et puis, il voyage avec cet avion-là. Il voyage aussi par le train. Il va plusieurs fois en Italie. C'est un pays qu'il apprécie beaucoup. Et puis il aime aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, les belles lettres. Donc il aime bien le théâtre, où il va régulièrement. Il va pas mal au théâtre français. Et puis il aime la photo aussi. Donc c'est pareil, il passe pas mal de temps à prendre des photos, à les développer ensuite. En fait, tout ce qu'il fait, il aime vraiment. Il est perfectionniste dans le vélo en tant que mécanicien. Aussi dans tout ce qui touche, ce qui fait que quand il touche à quelque chose, il s'y met à fond. Et voilà, ces multiples passions peuvent expliquer aussi pourquoi il est un peu moins impliqué dans l'entraînement en vélo.
Donc, comme vous le disiez, sa carrière est stoppée alors que la Première Guerre mondiale est déclarée et il ne déroge pas à la règle. Il va être appelé dans le 20e escadron.
Oui, effectivement. Alors, en fait, il a abandonné le Tour de France 1914, quelques semaines avant le déclenchement de la guerre. Il a eu un accident de chasse un peu bête, alors qu'il était en train de replier sa carabine quand il était du côté de Pénétin, là où il avait acheté une maison l'année d'avant. Et du coup, il est mobilisé, mais il ne se rend pas immédiatement au bureau de. Enfin, il se rend immédiatement au bureau de recrutement de Paris où il est affecté. Par contre, il a 2 3 semaines de répit le temps que sa blessure à l'orteil se guérisse. Et ensuite, donc, il est affecté d'abord en tant que cycliste. Il participe, voilà, à quelques opérations en septembre 14. Et puis après, il va rapidement être chauffeur automobile dans l'armée française.
Et donc, en mars 17, dans une interview par le journal La Vie au Grand Air, il déclare, hélas, à la reprise des vélodromes, combien d'entre nous auront disparu qui étaient la gloire de notre sport? Eh bien, c'était sans savoir que quelques mois plus tard, en décembre, il décéderait dans un accident. Que s'est-il passé?
Ouais, c'est vrai, la guerre au moment de sa déclaration durait depuis 2 ans et demi. Le vainqueur du Tour de France 1909, Faber, était déjà mort. Octave Lapize allait suivre à l'été 17, vainqueur du Tour de France 1910. Il y avait plusieurs champions du monde de piste qui étaient morts. Voilà, plusieurs très très grands champions, puisque il n'y avait pas de dérogation à l'époque, hein, même les plus grands sportifs et les plus glorieux du pays était envoyé au front. Et lui, donc, il décède le 20 décembre 1917, alors qu'il se trouve, voilà, il est un petit peu à l'arrière de la ligne de front. Il revient donc avec la voiture qu'il conduit un petit peu en arrière. Et il y a justement sa femme qui l'attend à ce moment-là, qui avait obtenu un laissez-passer pour le voir à titre exceptionnel. Et en fait, c'est vraiment un accident bête, hein. Il croise un boucher qui est avec sa charrette de cheval et qui est endormi. Voilà, ils sont sur la même voie. Au bout d'un moment, quand il se rend compte que l'autre ne le voit pas, il fait nuit. Donc il klaxonne, et en même temps, il tour de son véhicule pour pouvoir passer de l'autre côté. Mais le cheval, du coup, lui, s'est cabré au moment où il a klaxonné et a fait une embardée du même côté que la voiture. Et du coup, le timon de la charrette s'est enfoncé dans le pare-brise et dans sa poitrine. Donc, il a la cage thoracique enfoncée. Il est très grièvement blessé. Il est transporté à l'hôpital de Troyes. Et il meurt dans la nuit.
On peut dire que c'est une vie qui se termine brutalement en 17 par un stupide accident, même si bon, je dirais plutôt une stupide guerre. Et son corps a été rapatrié en 1923 à
Pénétin. Ah, c'est ça, oui.
Et aujourd'hui, que nous reste-t-il de Petit Breton ?
Alors, il reste pas énormément de choses, il reste une mémoire qui est vraiment vivace dans la mémoire familiale des Mazans. Voilà, ses petits-enfants le chérissent encore, et puis même ses arrière-petits-enfants sont encore bien intéressés par le personnage. Il reste un vélodrome à son nom dans la ville de Nantes. Le vélodrome de Nantes qui a succédé au vélodrome Longchamp et qui a été construit en 1924 porte son nom. Donc il va bientôt avoir 100 ans, ce vélodrome, même s'il est un petit peu délabré, que la ville ne s'en occupe pas du tout. Voilà, il est là pour rappeler le champion qu'on a eu, et puis il reste quelques lignes dans les palmarès de certaines des courses les plus prestigieuses, et puis la mémoire d'un des grands champions bretons, un champion qui courait avec un certain panache, qui était connu pour attaquer un peu tout le temps, qui calculait pas du tout ses efforts, comme ça se faisait souvent à l'époque, mais lui plus particulièrement, se distinguait par sa façon de courir de manière vraiment offensive et sans arrière-pensée. Donc il reste un beau champion et quelques belles photos qu'il a prises ou des photos de lui dans ses tours victorieux.
Donc Lucien Mazan, dit petit breton ou l'argentin élégant, a mené une existence atypique en ce début du XXe siècle, parsemée notamment de prouesses et de voyages. Je pense que notre interview a sûrement suscité l'intérêt de nos auditeurs à votre ouvrage. Où peut-on le trouver ?
Alors, il se trouve essentiellement sur Internet, sur les sites comme la Fnac, Amazon ou le site de Publishroom, puisque j'ai pas trouvé de maison d'édition qui était intéressée par le sujet. Hein. Plusieurs m'ont dit que le livre était bien, mais que c'était une niche et que il n'y a pas trop de succès commercial dans l'ouvrage. C'est un peu dommage, d'autant que finalement, il y a bien une maison d'édition colombienne qui m'a publié là à la fin de l'année dernière. Donc ça intéressait davantage manifestement en Colombie qu'en France, mais il est trouvable, et puis on peut me contacter également via mon compte Twitter, et puis je peux fournir des exemplaires dédicacés en région nantaise.
Et est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin ?
Non, ben je vous remercie Nicolas de m'avoir invité. Je suis toujours content de parler des pionniers du cyclisme, et puis ben, notamment de Lucien, hein, sur lequel j'ai travaillé pendant 2 ans, et c'est un personnage que je trouve attachant, et j'espère avoir retranscrit ça dans mon livre. Donc je suis toujours content de pouvoir parler de ces héros.
Eh bien, merci d'être venu aujourd'hui nous parler de ce champion hors pair, et tout de suite, une pause musicale.
Say, baby. Don't get in no trouble.
No, we're just trying to win this dance.
Win that 500.
We got the refugees, all stars, rubber dubbing in the club. White Clef Jean.
Look at hand, look at shorty got back. Should I ask her for a dance? Hold on, there's too many in the wolf pack. And besides, dirty cash talking to her, buying her fake furs and taking her to the fever. Quiet as it's kept, they ain't even it's been. She spends his Franklin's at the malls with her friends. Material girl living in a material world, but it's alright, cause it's Saturday night. So Mr. Funkmaster, pump the BGs. And all you college students playing Ouija's. Check the spelling R-E-F-U-G-E. E, get the CD from Sam Goody. You ain't even close with the rhymes that you wrote. Don't be mad.
back cause you broke. Let me clear my throat. John Forte, grab the mic and don't sway it this way.
I'm more than just a rhymer, you still a small timer. Hoping that the game treat that ass a little kinda. Every step tangoed, yo beef don't concern me. I'm eating mangoes in Trinidad with attorneys. My crew slang flow worldwide like a current. Whipped to every spot where nobody got insurance. Rubber do the math, you ain't half niggas out it. My man's claim true, you forget about it. Ho-ho, just a new sense, like my influence. Well recognized, you a lie trying to do it. Got juice, told your lady, oops, we nuts, baby. Smooth and charismatic, automatic, you gon' save me. God bless the dead as my son survive. We strive to teach you, baby, and stay alive.
Refugee camp, nice baby. John Forte, watch your lady.
Watch your lady, yeah. Yo,
if you got more than a dollar in your pocket right now, put your hands up.
Well, you can't tell by the way I roll, shorty, that I'm a ladies man, a businessman. Condos down the shore, multi-million pension plan. But it ain't in my plan to make moves without the fam.
No,
can't keep it intact, your cleft through the track. John, play the Mac, voila, pay the tax. Business as usual, watching suspects. Still my assets get cut with G-Lets. We built this concept, connect like 9X. Drinks at the bar, my American Express.
I know you didn't just kiss my girl.
Hey, man, the threat.
You want to disrespect me? Let's go outside.
Some cook up the cop and pull up, then my cuff up, you. Who's calling bluff? Now you shook up, cause you lock up, man, I love up, you. Who's calling bluff?
Hey, yo, John is chilling, dirty cash dealing. What more can I say? We living, that's what we got it good. And since you understood, we.
Yeah.
Leave the knives and the guns alone, refugees on the microphone, come on. Leave the knives and the guns alone, refugees on the microphone. Say what? You can't stop the shining, rock steady. You can't stop the shining, come on. You can't stop romancing, elite force. You can't stop the dancing. Where the ladies at? And for the ladies, we won't play you. If you fat, shake what your mama gave you. Hey, whether you're fat, the slim, bubble your ting. Fellas, if you need help, use ginseng. Look at here, you can't stop the shining, Look at here, you can't stop romancing. We look just here staying alive, baby. You know the flavor look of the here. Refugees. Here we go, come on.
Live at the carnival, 9-7 till infinity, high. Refugee all-star. Can't stop the shining.
C'était Wissef Jean, We're Trying to Stay Alive. Pour terminer l'émission, je vous propose de réécouter une de mes chroniques, datant de février 2019, sur une autre célébrité locale, Ange Guépin.
Sans plus attendre, c'est le moment d'histoire de Nicolas. Aujourd'hui, on remonte le temps jusqu'au 19e siècle pour vous parler solidarité.
Histoire. Le saviez-vous, au 19e siècle, tous les matins de 9h à 10h, un médecin a tenu au numéro 10 place du Pilori, dans son cabinet, des soins et des médicaments gratuits pour les plus démunis. Cet homme s'appelle Ange Guépin. Si cela vous semble si familier, c'est que son buste orne la place Delorme à Nantes et que la maison des sciences de l'homme, dans l'ancien Marcel Sopin, porte son nom. C'est la moindre des postérités que l'on pouvait lui accorder puisque cet ophtalmologiste, écrivain et homme politique républicain et socialiste a profondément marqué l'histoire de Nantes de 1830 à 1870. Né en 1805, il passe son enfance à Pontivy, puis part à Rennes pour côtoyer le Collège Royal. En 1824, il se présente au concours de l'école polytechnique. En raison de ses opinions politiques, il est rayé de la liste des candidats reçus. Il poursuit donc ses études sur les bancs de la faculté de médecine à Paris. Durant cette période, il se politise et rentre en contact avec des personnalités des milieux républicains et saint-simoniens, notamment Camille Mélinet, imprimeur-éditeur à Nantes. Il lui propose de venir dans la Cité des Ducs, où il pourra occuper un poste à l'école de médecine. C'est à ce moment-là qu'il ouvre un cabinet médical place du Pilori. Guépin est connu pour avoir soigné avec une abnégation sans faille. En 1840, il crée le premier dispensaire nantais gratuit pour les indigents. Il est aussi l'un des premiers médecins à opérer de la cataracte. Très apprécié des patients et de ses pairs, il s'est dévoué pour les plus miséreux avec sa devise « aux plus déshérités, le plus d'amour ». Il participe également à la création d'une boulangerie sociétaire qui procure aux ouvriers un pain moins cher. Son action à l'égard de la classe populaire n'est pas seulement caritative, mais politique. Son statut lui permet d'avoir de l'influence et une aura dans la société pour dénoncer la précarité des plus démunis. Son engagement apporte souvent une amélioration aux conditions de vie des ouvriers et paysans qu'il cite comme la classe la plus nombreuse et la plus pauvre. Le combat d'Ange Guépin se porte aussi sur l'éducation pour les enfants, filles et garçons. Il estime que l'éducation est un facteur majeur pour accéder à la démocratie. Selon ses mots, sans l'éducation du peuple, le suffrage ne peut déboucher que sur le despotisme des masses ignorantes. En 1850, il fut révoqué par le parti de l'ordre de ses fonctions officielles de médecin des douanes et de professeur pour son socialisme et son anticléricalisme. Ange Guépin a toujours eu un attachement en faveur des associations ouvrières. Il estime que la lutte prolétarienne, passant par l'organisation des travailleurs, est le seul moyen de transformer la société. Par ce biais, il tisse des contacts avec des grandes militantes féministes, des femmes de la Révolution de 1848, en se montrant comme un adhérent de la cause des femmes. Il ne sera jamais élu député, il emporte haut la main des suffrages des Nantais, mais les cantons ruraux, plus peuplés, votent malheureusement pour le candidat officiel. Cependant, il a été conseiller municipal de Nantes, conseiller général de Loire-Inférieure, mais aussi commissaire du gouvernement provisoire pendant la Deuxième République et préfet en 1870. Il meurt 3 ans plus tard, en 1873, à 68 ans. Le lendemain, la ville de Nantes ferme ses magasins en signe de deuil. Ange Guépin reste un personnage méconnu par nos contemporains, alors qu'il est probablement l'homme le plus important de l'histoire nantaise du XIXe siècle, et son combat politique mérite une notoriété plus importante. Merci.
Et merci pour ce moment d'histoire. Et si vous voulez écouter ou réécouter toutes les chroniques de Nicolas, je vous donne rendez-vous sur la page Facebook Moment d'histoire-prune92fr.
Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de votre attention. Si l'émission vous a plu, vous pouvez la retrouver sur le site de Prune ou sur la page Facebook Moment d'histoire-prune92fm. Je vous souhaite un bon après-midi.
Moment d'histoire. L'émission qui voyage dans le Nantes d'un autre temps. Animé par Nicolas Boissineau tous les 3e jeudi du mois, entre midi et 13h sur Prune 92 FM.